Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail.
Merci patron.
Avec Philippe Saunier.
Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de l'hydrogène et en particulier du moteur à hydrogène que peu de gens connaissent et qui pourtant devrait être l'avenir. Alors pour ce faire, dans cette chronique des temps modernes, nous invitons Marcel Croquefer. Alors Marcel Croquefer, c'est un Dunkerquois, il n'est pas à côté, mais il a la particularité de travailler dans les industries chimiques et d'être l'un des principaux promoteurs en France depuis plus de 10 ans, avec son organisation syndicale, la CGT, de ce fameux moteur à hydrogène. Alors, première question pour Marcel, qui est au bout du fil. Pourquoi cette idée de promouvoir le moteur à hydrogène pour un syndicaliste?
Alors bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Hein. Alors, pourquoi promouvoir? Tout simplement parce que les camarades et collègues de travail de Total, dans l'ex-raffinerie des Flandres à Dunkerque, ont été privés de leur raffinerie. Le groupe Total a décidé de fermer cette raffinerie pour des raisons purement économiques. Hein. Voilà, on s'est retrouvé devant une installation qui était performante, avec des savoir-faire importants. Et on s'est dit, quoi faire, puisqu'on nous prive de la possibilité de fabriquer des carburants d'origine fossile, hein, d'origine du pétrole. On s'est questionné, on a imaginé comment on pourrait fabriquer des carburants d'avenir qui soient bien intégrés dans notre temps, c'est-à-dire qui prennent en compte les questions, les enjeux très importants du moment concernant l'environnement et le réchauffement de la planète, les gaz à effet de serre, etc. etc.
Voilà. Ok, donc ça c'est le contexte, donc ça fait plus de 10 ans maintenant que cette bataille pour le moteur à hydrogène a été engagée. Alors avant d'aller plus loin, d'abord c'est quoi un moteur à hydrogène? Première question.
Alors voilà, un moteur à hydrogène, tout d'abord la dénomination est tout à fait exacte. Hein. On peut faire tourner un moteur à thermique, c'est-à-dire un moteur à combustion, avec de l'hydrogène. Hein. Ça a fonctionné d'ailleurs particulièrement pendant les périodes de guerre où il y avait pénurie pour les véhicules, il y avait pénurie d'essence. Mais en fait, il s'agit plutôt d'utiliser de l'hydrogène pour fabriquer de l'électricité à bord d'un véhicule qui est en fait un véhicule électrique. Cet hydrogène qu'on stocke dans un réservoir fait fonctionner une pile à combustible qui est tout simplement l'inverse d'un électrolyseur, hein, et qui permet de produire à bord l'électricité qui sera nécessaire à ce véhicule électrique. Donc on n'est pas vraiment dans l'idée d'un moteur, dans la mesure où il n'y a pas de combustion, hein, on fabrique de l'électricité, sa propre électricité à bord.
Ok Marcel, pour cette explication, alors avant encore d'aller plus loin, je dirais, mais l'intérêt, quel est l'intérêt finalement d'une voiture à hydrogène? Alors on a bien compris, c'est pas un moteur, c'est plutôt une voiture électrique à hydrogène, comme tu viens de l'expliquer. Alors quel est l'intérêt à tout point de vue de ce projet?
Alors tout d'abord, l'intérêt d'un véhicule de ce type est environnemental et intéressant sur le plan de la santé publique. Hein. Alors environnemental, pourquoi? Parce qu'il n'émet pas de CO2, il n'y a pas de combustion, donc il n'y a pas de rejet de particules. Au pot d'échappement ne sort que de l'eau pure. Comme je te le disais à l'instant, on fabrique l'électricité à bord, et donc on rejette de l'eau pure. C'est le principe inverse de l'électrolyse. Et puis l'autre intérêt, il est également dans la fabrication de l'hydrogène, qu'on va injecter, avec lequel on va remplir le réservoir. Cet hydrogène peut être fabriqué à partir d'électrolyse de l'eau, donc une matière à portée de main un peu partout. Et puis cette électrolyse, elle peut être réalisée à l'aide d'énergies renouvelables, et notamment les énergies renouvelables du surplus. C'est une manière de stocker l'électricité dont on n'a pas besoin lorsque le producteur, la production d'électricité est en dépassement, est en surplus par rapport aux besoins. Donc on peut stocker cette électricité dans l'hydrogène, L'hydrogène, on le stocke bien entendu là où il est produit. On peut le stocker dans les pipes, etc. Et il y a divers procédés aussi qui sont encore novateurs dans le domaine. Et puis, une fois qu'on a rempli le réservoir d'hydrogène, ben voilà, on roule à l'hydrogène en produisant sa propre électricité.
Alors ça, c'est essentiellement sur la question de l'environnement, on a bien compris, pas de pollution. Il y a peut-être aussi quelques avantages en termes d'indépendance et en termes et vis-à-vis de l'emploi sur le territoire national.
Alors bien entendu, il s'agit de remplacer l'énergie pétrole, hein, le pétrole. Et donc on parle là d'enjeux très importants qui nécessitent de continuer de travailler sur la filière, de développer la filière en France. Et il est question de dizaines de milliers d'emplois impliqués par cette filière. Parce que, comme je le disais très brièvement à l'instant, il faut faire l'électrolyse de l'eau, ça veut dire qu'il faut fabriquer des électrolyseurs. Il faut également installer des usines avec ces électrolyseurs. Il faut envisager de stocker cet hydrogène. Il y a plein de solutions, et notamment des solutions très techniques sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui, mais qui permettent de stocker de façon à prendre de risques avec les dangers du gaz, notamment sous forme de stockage, forme solide. Et puis ensuite, on peut imaginer le développement de la filière, pas seulement dans les véhicules, mais aussi pour l'électricité dans les bâtiments, enfin pour les engins, pour les engins. Quand je parle d'engins, je parle des navires, je parle des trains, les engins agricoles, je ne sais encore quel type d'engins qui peuvent fonctionner à l'hydrogène. Et donc, t'imagine toute la filière se développant et également impliquant tous les services. Comment on dépanne un véhicule hydrogène, hein, voilà, on n'est plus avec les mêmes services, on n'est plus avec les mêmes stations-service, mais on n'est plus non plus avec les mêmes services en termes de réparation et d'entretien. Donc les enjeux en termes d'emploi nouveau, moderne, hein, dans l'air du temps, sont considérables.
Alors là, ce que tu nous expliquais, c'est que c'était particulièrement porteur en matière d'emploi et que ça dépassait donc le stade de la voiture. Alors, ça semble être une bonne idée. Il y a des choses qui sortent dans les médias de temps en temps, mais en France particulièrement, on en est où et où sont... est-ce que ça, c'est simplement un projet dans les cartons? Est-ce que ça marche vraiment au concret? Et quelle est la position de la France dans ce domaine?
Alors, la filière commence à être soutenue depuis quelques années. Bon, c'est vrai que lorsque nous, on a pondu ce projet suite à la fermeture en 2010, il y a beaucoup de gens qui nous prenaient pour des rigolos. Bon, aujourd'hui, c'est pris très au sérieux, notamment depuis que Nicolas Hulot, qui a été, comme tu le sais, ministre dans le gouvernement Macron, dans le premier gouvernement Macron, notamment depuis que Nicolas Hulot a présenté un plan hydrogène national doté d'une centaine de millions d'aides. Donc il y a des projets qui sont mis partout. Toutes les régions de France sont parties dans leurs propres projets, y compris les Hauts-de-France, y compris notre propre région, dans les aéroports, pour les routes. Enfin, il y a un tas de projets qui est en cours. Ça pose une question, comment cette filière va se développer. Nous, on pense à la CGT qu'il faudrait qu'elle se développe dans le cadre d'un service public pour avoir une cohérence, pour éviter les déperditions existantes dans les mises en concurrence à la fois des régions mais aussi des industriels, pour éviter également de dépenser de l'argent de l'État nécessaire, hein, cette dépense nécessaire pour lancer la filière. À des fins privées qui ne répondraient pas aux objectifs premiers concernant l'environnement, mais également les déplacements, enfin tout ce que j'évoquais tout à l'heure. Et puis on pense surtout que pour garder la maîtrise de tout ce dispositif, cette maîtrise d'État devrait s'élargir et réintégrer en son sein l'énergie proprement dite, l'énergie électrique, l'énergie gazière, de façon à garantir, comme ça a été prévu à l'époque, dans l'après-guerre, l'accès à l'énergie pour tous les citoyens, quel que soit leur l'endroit où ils vivent, dans l'Hexagone ou dans les Dom-Tom.
Alors si je comprends bien, ça avance, mais un peu en ordre dispersé, et la meilleure solution, ce serait que ce soit dans le code d'un service public, de façon à ce que ce soit cohérent, efficace et accessible à tous. Et là-dedans, finalement, parmi les différents interlocuteurs, il y a les pétroliers. Je pense en particulier à Total, qui a pas voulu du tout de ce projet en France à l'origine, et qui, par contre, a commencé à le développer à l'étranger, ce qui est quand même assez fabuleux. Alors, où on en est où aujourd'hui avec les multinationales, et en particulier la plus importante en France, je pense à Total.
Alors, Total, aujourd'hui, bon, il ne s'est pas impliqué encore dans ce projet. Il ne s'est pas impliqué à Dunkerque. Il a annoncé, sans qu'on puisse en vérifier la suite, les conclusions, il a annoncé être intéressé, peut-être lancer quelque chose sur son ancienne raffinerie qui a également été arrêtée à La Mède, près de Fos-sur-Mer, enfin à Martigues plus exactement. Et on en est là pour Total, quoi. Alors Total, il s'intéresse, il est devenu un vendeur d'électricité, hein. Voilà, il s'intéresse à cette partie-là d'ailleurs. Il est présent dans l'appel d'offres à un marché pour un champ éolien offshore, c'est-à-dire en mer, au bord des côtes de Dunkerque. Ce champ éolien offshore étant très intéressant pour installer une usine d'hydrogène sur le Dunkerquois, étant un maillon très important du dispositif. Donc, quelque part, il s'y intéresse, mais il est surtout intéressé par l'argent, hein, comme toutes ces multinationales, hein, c'est le conseil d'administration qui dirige et qui décide des marges bénéficiaires à faire et où les faire. Maintenant, bon, on a d'autres fleurons, hein, Air Liquide, qui est en passe de devenir leader mondial dans ce domaine, hein. C'était déjà son domaine, la production d'hydrogène, entre autres, hein, mais il est en passe de devenir leader mondial, il investit partout, y compris en Chine. Et puis on a des start-up, hein, qui démarrent. On a aussi également Michelin qui est depuis très longtemps investi sur ces questions de transport et de transport nouveau, moderne dans le temps et sur l'hydrogène. Il amène beaucoup de fonds dans les start-up. Enfin, voilà, ça bouge, mais en ordre dispersé, de manière non coordonnée. Et puis un peu chacun pour soi, c'est ce qui justifie qu'il faudrait une maîtrise publique, hein, pour en préserver à la fois les avantages et pas en subir les inconvénients, pas se retrouver demain avec la problématique d'aujourd'hui que l'on a tant avec les usines de production de pétrole et de carburant qu'avec le coût du carburant à la pompe.
Ok Marcel, pour toutes ces explications, alors maintenant, il me reste juste à poser une seule question. Eh bien, c'est le mot de la fin pour demain. Dans quel sens ça peut pousser dans l'intérêt de tous? Donc, ce mot de la fin, quel est-il?
Ben, ce mot de la fin, il est on a de l'énergie à revendre. Hein, c'est le titre du petit film qu'on avait fabriqué en 2014, à l'occasion d'un colloque sur l'hydrogène. On a beaucoup d'énergie à revendre à la CGT, hein, et notamment derrière ce projet hydrogène, et on n'entend pas en rester là, on entend être longtemps présent sur ce terrain pour arriver à faire aboutir à la fois le projet en lui-même, sur le plan industriel et technologique, mais également sur le plan sociétal, afin que on puisse les uns et les autres bénéficier partout dans le territoire de ces progrès, hein, que l'on mérite. Encore un tout dernier point que je voudrais citer. des rapports ont démontré que la pollution de l'air sont responsables de 48 000 morts en France, et plus de 6 000 dans ma région des Hauts-de-France. J'imagine que si un attentat venait à provoquer 48 000 morts en France, nous aurions un afflux de lois qui viendrait bousculer le paysage législatif français et prendre des dispositions sérieuses et définitives sur le sujet. Bon, là, on est devant des morts qui ne sont pas connues, qui ne se disent pas, qui sont beaucoup moins spectaculaires, mais qui sont tout aussi réels, hein, 48 000, et on attend de l'État qu'il prenne des dispositions fortes en faveur de cette filière et qui nécessite beaucoup d'engagements financiers.
Alors finalement, que des intérêts, l'indépendance énergétique, le réchauffement de la planète, la pollution qui fait déjà des dégâts, le développement de l'emploi. Alors donc, tout est bon, il n'y a plus qu'à y aller.
Il n'y a plus qu'à y aller, c'est pour ça que je te disais, l'énergie est à revendre, c'est une façon d'aborder le sujet, et il n'est pas question de céder sur le sujet. On va continuer de pousser ce projet, comme on le fait depuis 10 ans, et on aura de cesse qu'avec toutes nos instances, hein. Hier j'étais encore avec des camarades de Minénergie et des anciens de GRT Gaz. On travaille de pair avec toutes les bonnes volontés, syndicales ou non, hein, qui nous permettront de faire avancer ce projet et de faire en sorte que on puisse demain se déplacer, se chauffer, s'éclairer avec des technologies modernes qui ne soient pas polluantes, qui soient accessibles à toutes et à tous, à des prix permettant à lutter et à supprimer les difficultés à d'accès à l'énergie et pour ne citer que celle-là, quoi. Voilà.
Ok Marcel, eh bien écoute, il ne me reste plus qu'à te remercier de toutes ces explications en disant bien sûr par mon intermédiaire que nous sommes toujours disponibles pour aller plus avant sur ces questions, que ce soit dans la région de Quélus ou ailleurs. Merci et à bientôt.
Oui, et le salut fraternel des Dunkerquois. À bientôt.
Merci.
Les temps modernes, la petite chronique du grand monde du travail de Philippe Saunier. À retrouver en podcast sur cfmradio.fr, rubrique CFM Quélus.
Le public de jardin de ma tante.
Oh, pas vrai.
Ah, bah si. Et mon patron, il change de costume 2 fois par jour.